Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h06, on est dans le Super Moscato Show, comme tous les jours, 15h-18h, ça vous le savez. On avait Denis Charvet, Adrien Aiguin, Pierrot Dorian, nous sommes avec un mec, alors là je vais vous surprendre, qui ne s'est jamais entraîné de sa vie. Surtout pas au pénalty, Eric Dimeco. Voilà, tout simplement, mon petit Pierrot. T'as demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Alors, dans une demi-heure, Bruno, Genesio et l'OM, ça avance. On va revenir quand même sur la victoire du Brésil, qui n'a pas eu besoin de Neymar une seule minute face au Japon dans un match pourtant difficile. Et puis, Novak Djokovic allume le circuit et notamment l'organisation des Masters 1000. Avant cela, débat rugby. Est-on obligé d'aimer le stade toulousain? Vincent Moscato règle le problème. Venez défendre le stade toulousain ou alors venez nous dire pourquoi vous n'aimez pas le stade toulousain. La défense, est-ce le point faible de l'équipe de France de foot? France-Suède ce soir à 23h. Et puis, ça c'est à 17h. Hein. Et puis le journal moyen, deuxième édition, comme tous les jours à 16h45 sur RMC.
Très gros service après-vente du Moscato Show d'hier. Denis nous a laissé un cadeau inédit, du jamais vu. Les habitants de Montpellier. C'était incroyable la séquence.
On va décrypter ça.
Et puis, un sondage intéressant sur la cote de popularité du Kiki. De Kiki. La cote remonte.
Elle remonte là.
Ah, ça remonte, Vincent.
Ah, ça c'est bon. Ah,
généralement, à 30 ans, la Kiki remonte.
Oui, tout à fait, Eric. C'est intéressant.
Ah bon,
c'est fin, encore une fois.
Ouais, t'es
en forme,
Eric.
C'est une émission.
Il est allé, mais il a pris nos milieux.
C'est de la finesse, hein, vraiment. Là,
après. Mais est-ce qu'il faut de l'entraînement pour qu'il remonte? C'est ça qui est.
Oui. Alors écoute.
Non, on ne veut pas la réponse. Autant la question est bonne, autant on se passera de la réponse. Merci. Devant
que tu trouves 1000 personnes de plus.
Le Kikedi vous offre une machine à café Senseo. Voilà, le café officiel du Tour de France. On ne l'a pas précisé. Vous envoyez Kikedi par SMS au 732-16. Mais tout de suite, explorons le côté obscur de la force.
Seigneur Sith implacable et cruel, l'intelligence démesurée.
On sera toujours une équipe difficile à battre.
Il est le personnage le plus craint de la galaxie.
Il nous est premier. Et vous ferez mieux de vous inquiéter de ceux qui ne sont pas qualifiés.
Le méchant le plus célèbre de la pop culture.
Moi, le rugby de ces derniers mois là me fait un peu chier. Ouais.
C'est un cyborg amélioré qui dirige le commandement de l'Empire.
La volonté de gagner, de marquer l'histoire.
C'est un expert en stratégie militaire.
Ce qui est bien, c'est qu'on a encore de la marge avec la seconde mi-temps de merde qu'on fait.
Il possède des pouvoirs sensoriels avec la force.
On a été performant.
Dark Vador, c'est donc lui.
Je suis ton père.
Nous voulons verser Jitorix comme chef.
Non, ce n'est pas vrai.
Un tiers vaut mieux que deux. Hugo là.
Moscato. Il va te le régler, le problème.
Il est bien ce slogan parce qu'il y a toujours une part de mystère. On n'a toujours pas exactement compris où je voulais aller, mais il est génial en fin de compte. Donc, on y va. On va parler du stade de toulousain d'Hugo Mola. Champion de France pour la quatrième fois consécutive. C'est clairement la meilleure équipe de France actuellement. Ça, ce n'est pas un débat. Mais c'est une équipe qui subit beaucoup de critiques. Tout le monde n'aime pas le stade toulousain. On va se poser la question, comment se fait-il qu'une équipe qui joue aussi bien ne fasse pas l'unanimité, puisque les critiques sont absolument pas sur le jeu, mais sur le reste. Il y a évidemment les affaires et ça compte. Il y a aussi la communication et ça va être important. Est-on obligé d'aimer le stade toulousain? On pourrait poser aussi la question différemment. Comprenez-vous qu'on ne l'aime pas? Vincent règle le problème. 32-16 ou Twitter, hashtag RMC Live. Et on va faire le point justement sur ceux qui crispent ses adversaires avec Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Salut messieurs.
Salut la Thève.
Donc sur le terrain c'est régalade, hors terrain il y a aussi ce côté obscur.
Oui, le stade toulousain a réussi un quadruplé magnifique, pas de doute, mais très vite les bruits sont arrivés. Toulouse a triché, Toulouse ne devrait pas avoir cet effectif, etc. Sur le plan des sanctions, Toulouse a été condamné 4 fois depuis 2023 pour le transfert de Colby à Toulon, un contrat entre Antoine Dupont et un partenaire, et 2 fois autour du transfert de Melvin Jaminet depuis Perpignan. Le club est à nouveau passé devant la commission de discipline pour 2 dossiers qui pourraient aboutir prochainement à une amende record de 5 millions d'euros. Et quand on voit la liste des joueurs en tribune par blessure ou par choix pendant la finale, Colombe, Capozzo, Jelonche, Baye, Malia, Coste et l'arrivée prochaine de Menoncello, le centre italien, certaines critiques apparaissent forcément sur cette gestion. Face à ces critiques, notamment sur le salary cap, le manager Hugo Mola répondait ça.
Tous les grands sportifs, toutes les grandes équipes ont eu par moment ce besoin de se resserrer contre une adversité, parfois identifiée. Là, elle est un peu plus fumeuse, un peu plus évaporée, même si on a quand même facilement trouvé qui nous en voulait, mais il n'empêche que qui ça? Bon, je vais vous laisser, c'est vous les journalistes, c'est vous qui devez investiguer, c'est pas moi.
Stratégie classique, hein, du seul contre tous. Du coup, là, ça c'était juste avant la finale. Compliqué de savoir quel est cet ennemi. Peut-être nous, les médias, peut-être les instances, peut-être les autres présidents, comme celui de Bordeaux, Laurent Marty, qui avait demandé un retrait de points en cas de triche. En tout cas, Toulouse est sur la défensive. Hugo Mola protège les joueurs et attaque ceux qui les menacent.
Et je crois qu'on devrait un peu plus chérir la qualité des joueurs qui évoluent en France. On devrait un peu plus les protéger. Parfois, les joueurs sont pris pour un peu trop de la chair à canon par nos instances. Et aujourd'hui, donc la formation fonctionne, notre produit fonctionne, mais ne vous trompez pas, c'est les acteurs qui font fonctionner la machine et personne d'autre. Et ceux qui pensent, encore une fois, qu'ils pensent suffisamment bien et en dénigrant les acteurs, se trompent et ça leur perturbera la figure dans pas longtemps.
Mola fait passer ses messages, comme Didier Lacroix avant lui, qui a exprimé à plusieurs reprises son envie de modifier les règles du salary cap. Tout est évidemment très calculé au sein des Rouges et Noirs, qui adorent jouer avec les médias et qui sont le club le plus important de France sportivement et économiquement. Hugo Mola n'est étonnamment pas venu en zone mixte après la finale, après la victoire. On ne saura donc pas tout de suite son avis sur ce quadruplé historique et les critiques qui l'accompagnent, mais pour l'instant, les titres semblent tout emporter.
Merci Pierre. Est-ce qu'on a le droit de ne pas aimer le Stade Toulousain malgré ce qu'ils produisent sur le terrain, Vincent?
Ben, le problème, quand tu gagnes 4 fois, c'est pratiquement insolent de gagner 4 fois le championnat. Il avait gagné dans les années 90, mais là, encore une fois, avec les joueurs qui sont peut-être à leur poste, certains comme Dupont, comme Ntamack, les meilleurs du monde à leur poste. Donc c'est d'une insolence incroyable. Les autres n'en peuvent plus. Le monde n'en veut. À chaque fois, on se dit qui va pouvoir contrer le Stade Toulousain. Mais c'est un peu tous les champions. Tous les grands champions ont le PSG et doivent être haï par la France entière du football, de Lyon. Bah, je parle pas de Marseille parce que là, c'est ils n'en peuvent plus, c'est terrible pour eux, mais tous, quoi, tu vois, Montpellier, tous les clubs de première division et même les tous les supporters de football. Donc ils n'en peuvent plus, même quand ils sont en Coupe d'Europe, au lieu d'avoir une union nationale. Ce qui se passe pas au rugby, à partir du moment où il y a un club qui est en finale de Coupe d'Europe, ils aiment que ce soit lui qui gagne, même s'il joue contre une équipe anglaise, bien entendu. Donc les clubs sont quand même beaucoup moins forts au rugby qu'en football. Après, le Stade Toulousain, c'est une institution. Donc quelque part, quand tu l'aimes pas, c'est que tu la jalouse. Laurent Marty, il aimerait être le président du Stade Toulousain, tu comprends bien. Moi, quand je critique le Stade Toulousain, je le critique parce que je me dis qui c'est qui va pouvoir les taper. Tu vois, Montpellier était pas loin, il les avait battus sur les statistiques, mais à la sortie, ce qui est terrible, c'était toujours le Stade Toulousain. On disait, on en a parlé il y a pas longtemps, à la fin, c'est toujours l'Allemagne au football qui gagnait. Ce qui n'est pas vrai.
Ce qui n'est plus vrai.
Ce qui ne se vérifie plus du tout. Mais à la fin, au rugby, 25 titres dans son histoire, c'est toujours le Stade Toulousain. Donc automatiquement, ils amènent, les gens ont envie de les fouetter. Hugo Mola qui vient, Hugo qui a une facilité d'élocution, qui a du bulbe, qui a de la verve, et qui te fout des phrases comme ça, qui dégringolent, que tu te régales de les écouter, mais qui punit, il châtie tous les contradicteurs avec le salary cap, bien entendu, qu'ils ont été pris les mains dans la confiture. Mais voilà. Et donc, ils sont champions. Donc l'arrogance du premier, bien entendu que tout le monde en pâlit de jalousie. A commencer quand Hugo Mola, en plus, il a des joues, Hugo, il dit, on connaît les détracteurs, on sait qui c'est, ça va vous péter à la gueule. Tu vois, en plus,
qui
il les menace.
C'est... On sait qui nous en veut.
Mais c'est énorme, c'est Mohamed Ali, c'est extraordinaire. Mais bon, après, quand même, il doit se régaler, il doit être dans un sentiment de puissance incroyable. Et ça, tu t'aimes pas, tu vois. Mais dans tous les sports, tous les champions, quand ça fait trop longtemps qu'ils sont là, qu'ils sont champions, qu'ils écrasent tout le monde, ben les gens haïssent, quoi.
Alors, vous venez au 32-16.
Au moins. Mais à la sortie, quand t'aimes le rugby, t'aimes quand même les voir jouer, quand même. Moi, je vais te le dire, quand tu les vois jouer, le Stade Toulousain, si t'aimes le jeu, tu te régales quand même.
On t'avait régalé, Vincent. 32-16, soit pour défendre le Stade Toulousain.
Moi, je vous ai tapé en finale. Donc je
vous
ai tapé en demi.
J'étais parti. Pour nous expliquer pourquoi vous ne les aimez pas. Denis Charvet, ancien joueur du Stade Toulousain.
Écoute, c'est drôle de faire ce débat parce qu'à l'époque même, alors dans une... dans une médiatisation qui n'était pas celle d'aujourd'hui, ben on faisait beaucoup de jaloux, parce que quand tu commences à gagner des titres, ben c'est humain presque, je veux dire, t'as envie de battre ben celui qui gagne tout, et là ça prend des proportions énormes, parce que comme dit Vincent, quand tu gagnes 4 titres à la suite, tu te dis mais ça, tu deviens invincible en fait, tu deviens le mec qu'il faut abattre. Mais dans la phrase du rugby, moi
je suis sûr qu'il y a que ça.
Alors moi pour pas répondre
au débat, parce qu'il y a des équipes qui gagnent et qui sont plus sympathiques, il y en a.
Mais attention, moi
dans tous les sports.
Par rapport au débat, moi je mets sur tous les terrains. Je rencontre plus d'amoureux du Stade Toulousain que l'inverse. Hein.
Dans la phrase du rugby, il y a beaucoup de supporters. Oui.
Non mais beaucoup, c'est-à-dire beaucoup.
Mais quand t'es supporter, la question ne se pose pas.
Non mais supporters, pas que du Stade Toulousain.
Dans les autres clubs, Pierrot.
Comme à Marseille, il y a beaucoup de supporters en France ou ailleurs ou dans le monde. Mais Stade Toulousain, c'est pas que Toulouse aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une vraie admiration quand même. Alors après les critiques, oui, le côté obscur dont vous parlez, c'est autre chose. Ça, c'est parce qu'on connaît maintenant le règlement du salary cap et tout ça qui est mal foutu, je suis désolé.
Ça, on le connaît depuis le début, le règlement.
Oui, d'accord.
Non, mais il faut parce que.
Mais il est mal foutu, mais il existe. C'est le règlement qui est mal foutu, mais t'es obligé de le respecter quand même.
Il existe, mais bon, il va falloir à un moment donné arrêter.
Je vais pas là-dessus. Je vais pas là-dessus.
Je reste
que sur le sportif.
Mais c'est normal d'aller là-dessus, Vincent, parce que, regarde, moi je te dis pas qu'ils ont raison, forcément. Peut-être même qu'ils se trompent. Mais quand t'es un adversaire du Stade Toulousain, que tu bosses, que t'en prends 60 en finale, ou 70 en demi, que tu vois qu'en tribune, il y a des mecs qui seraient titulaires chez toi. Bon, t'es vexé, t'es humilié. Et puis peut-être. Quand tu te rends compte que pour obtenir ça, peut-être qu'ils ont pas tout fait dans les règles, eh ben, ça te rend fou. Donc, mais, c'est normal qu'ils le mettent en avant. Et peut-être, encore une fois, qu'ils se trompent. Peut-être que ce n'est pas ça la raison pour laquelle le Stade Toulousain domine. En revanche, c'est un sentiment humain auquel tu ne peux pas échapper.
Oui.
Les mecs se sont massacrés et se rendent compte après coup, ils ont pas respecté les règles.
Oui,
tu peux pas leur dire bravo. Je suis désolé, c'est un sentiment humain. Tu peux pas leur dire bravo. Vous êtes les plus forts et je m'écrase. Non, parce que d'abord eux, c'est aussi des compétiteurs. Ils ont envie de les crever. Et de deux, ils se disent
d'accord.
C'est injuste. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est comme ça.
Pas
c'est
dans la même catégorie. Tu as peut-être raison, mais après, attention, la construction du Stade Toulousain, ça passe pas par tout ce que tu es en train de décrire. Il y a aussi la formation. Il y a les anciens joueurs.
Denis,
il y a une construction.
Je ne dis pas qu'ils ont forcément raison de le penser. Mais tu ne peux pas faire autre. Quand tu te fais attraper, c'est que de ta faute. Il faut arrêter de dire qu'ils sont nos ennemis.
Oui,
non, c'est toi qui as fait de la merde. C'est pas tes ennemis. Si tu veux, la Ligue n'est pas en chasse contre le Stade Toulousain. La Ligue, elle fait juste appliquer un règlement. C'est là où la communication, des fois, elle ne renvoie pas une très bonne image. Fais profil bas, reconnais ton erreur et terminé. Passons à autre chose.
Mais ce qui est très fort, c'est qu'en plus, tu te dis que ça va les affaiblir. Mais ce genre de problème les a rendus encore plus forts.
Ça fait une secte toulousaine
incroyable. C'est tout. Tout le monde est contre nous. Ça les a rendus encore plus forts. Parce que leur intelligence, c'est magnifique. Parce que plus les mecs ont les boules contre eux, plus ça les rend forts. Donc, ils ont créé la secte toulousaine. Parce qu'après, il y a eu ces soucis. Mais ça fait 25 titres.
Oui,
donc
voilà,
25 titres. Je vais te dire, ça, c'est les soucis des derniers moments, des trois dernières années. Mais ça fait un moment quand même qu'ils dominent le rugby. Et donc, automatiquement. Mais attention, c'est pas. Quand il y en a un seul qui peut leur rabattre un peu, si j'ose dire, le caquet. C'est quand le Stade français. Pas que c'était un club parisien avec un mec comme Mazgozini qui était le meilleur en communication, qui était au-dessus, qui a rapporté 5 titres de champion de France. Et je vais te dire, ça s'était inversé. Parce que tout le monde, c'était en plus un côté glamour. Et ce côté glamour, au bout d'un moment, au début, il plaisait énormément. Et à la fin, mon pauvre, tout le monde l'a haïssé. Tout le monde l'a haïssé, mais c'était un plaisir que tout le monde l'a haïssé. Les joueurs, ça les rendait encore plus forts et plus populaires. Et tu faisais 70 000 au Stade de France parce que ce club était devenu très, très populaire. Il n'y avait que ce club qui a réussi. Et le Stade Toulousain était un peu en dessous. Mais ils étaient malheureux de ne pas être haïs par le monde entier. Ils étaient malheureux, le Stade Toulousain, de ne plus être les proies de toutes les jalousies du monde. Parce que tout était dirigé sur le Stade français. Et puis après, ils ont repris le dessus parce que le Stade Toulousain, c'est une institution d'un siècle.
Alors, on n'a pas encore entendu Eric.
C'est comme le Real Madrid, Pierrot. C'est l'institution.
Oui, exactement.
Eric.
Non, mais c'est bien sûr qu'on peut. Alors, on va généraliser, mais ça existe dans tous les sports. Hein, celui qui domine au vélo et qui gagne tous les Tours de France, à un moment donné, il exaspère. Au foot, c'est pareil. Au rugby, c'est pareil. Au tennis, c'est pareil. Donc ça, c'est l'histoire de la vie. Alors après, Vincent l'a pas dit, mais il nous le dit souvent en coulisses. Le melon toulousain, ça pose un problème quand même.
Quelle ordure. Alors,
c'est pas joli, hein.
Mais non, mais c'est vrai qu'ils ont, quand tu es fort, il y a une assurance qui peut énerver en plus les autres, quoi. Voilà, donc, alors,
plus, attention, le Toulousain, t'as raison quand tu dis
ça. Ils en jouent. Ils en jouent, et en plus, quand ils énervent les autres, ils s'en servent pour les rouster encore plus.
Ah oui.
Parce que du coup, voilà. Non, mais c'est pas interdit. Au contraire, les Toulousains et je disais les autres sportifs s'en servent parce que tu as toujours besoin de bûches dans la cheminée là pour faire avancer la machine et ça en est une à un moment donné. Ils nous aiment pas et ils veulent nous voir perdre et voilà. Alors après vient se rajouter là-dessus toutes les histoires extra rugby on va dire, mais là où Denis a raison, c'est que le Stade Toulousain a toujours malgré tout, même s'il y a eu des équipes, et Vincent parlait du Stade Français, il y a eu des générations d'équipes qui ont rivalisé, mais c'est quand même un club centenaire, plus que centenaire, qui a toujours gagné et qui a toujours gagné normalement, on va dire entre guillemets, il n'y avait pas d'affaires autour, ou en tout cas, moi je ne suis pas assez calé pour le savoir.
Mais non,
Donc ça, c'est quand même aussi un truc énerve, c'est-à-dire quelqu'un qui est là depuis longtemps et qui gagne et toujours, à un moment donné, ça agace aussi, tu vois. Voilà.
Des équipes boulardissimes. Rappelle-toi, mais c'est Denis, les mecs écrivaient des bouquins sur la méthode toulousaine, même Denis. Denis faisait des raisonnements sur le jeu.
On est assis sur des chaises
quand on joue au rugby. Alors c'était le jeu. Alors il était bâché avec des professeurs, avec Pierre Villepreux qui t'apprenait pim pum pam l'anglais et des Rouget Thomas qui avaient un boulard énorme et tout ça. Philippe avec Denis qui avait
un boulard qui était
à Cannes. Alors lui, parce qu'on parle du petit Toto qui était à Cannes, Denis était à Cannes systématiquement tous les ans. Donc les mecs avaient la tête.
On va donner la parole aux supporters.
Par contre, ce qui est bien, c'est que mec le Bordeaux, à l'époque de Vincent, s'est bien inspiré de la méthode toulousaine.
Voilà.
Ils n'avaient pas le melon.
On va commencer par un Toulousain, c'est Mickaël au 32-16. Salut Mickaël.
Salut Mickaël. Eh bonjour les trompettes, comment ils vont?
Comment il va?
Ça va, on se balade.
Alors.
Eh bien écoutez, bien sûr qu'on les aime. Moi j'aime bien faire le parallèle avec les Bulls de Chicago de Jordan. Tout le monde
en toute humilité, oui.
Bien sûr, c'est les meilleurs. Il y a les plus grandes stars. Et en plus, derrière, là, ceux qui les détestaient, c'était les fans de New York ou de Utah. Et il y a le côté un peu dynastie. Donc ça aussi, je pense que tout le monde aime bien le côté dynastie. Après, on les aime aussi pour le jeu, la formation. Et moi, pour le sportif, celui que je mets en avant, c'est Teddy Thomas, qui était un petit peu quand même en échec à La Rochelle et dans les autres clubs. Et bien là, il est en finale et il gagne. Donc quand même, le club, il a réussi à le rebooster, ce mec-là.
C'est vrai.
Il est super. Ouais. Donc ça, on ne peut pas le mettre de côté non plus. Donc sur le sportif, ok. Pour le non-sportif, et ben, pas vu, pas pris, c'est pas compliqué. Prix pendu, on paiera ce qu'on a payé sur les choses qu'on a faites. Par contre, moi, ce que j'attends, c'est que tous les autres clubs soient scrutés de la même façon.
Ils le sont.
Oui. Et puis t'as raison.
J'en suis pas certain.
T'as raison en parlant de Teddy Thomas. Ça, c'est très important parce que tout le monde, c'est un club qui est envié tout ça. Mais tu dis de n'importe quel joueur, de n'importe quel club, tu le fais signer au Stade Toulousain, il y en a plein qui te disent non. Ils veulent tous signer au Stade Toulousain.
Surtout parce que
c'est un club incroyable. Et donc, tu comprends bien que ça fout les boules à tous les supporters, aux entraîneurs, à tout le monde, aux managers, aux présidents.
Mais d'ailleurs, Vincent, Denis le dit souvent, alors peut-être pas face à toi, mais Denis dit souvent que si tu avais joué au stade de Toulousain, tu aurais fait une autre carrière, il dit.
Tu aurais eu ces quatre sélections,
il a dit.
Juste pour être précis, il y a d'autres clubs, mais qui sont moins médiatiques, mais qui ont été sanctionnés pour le salary cap. Souvenez-vous, le MHR, ils ont accepté de payer sans contester 3 millions d'euros. N'oublions pas qu'en Pro D2, il y a des clubs comme Grenoble qui ont pris des points de pénalité, mais de folie. comme Dax d'ailleurs l'année dernière, ils se sont sauvés avec, je sais pas, 15 ou 20 points de pénalité avant le début du championnat. Il y a tous les clubs sont scrutés, même en Pro D2 ça morfle. Hein. Alors... Et quand c'est Toulouse, ben forcément, il y a du retentissement parce que c'est le Stade Toulouse.
Hein. Mickaël, tu restes avec nous. Mais nous allons accueillir Clément, supporter de Bordeaux. Salut Clément.
Salut Clément.
Ça va Clément?
Comment va Clément?
Ça va. Pour répondre à la question du débat, non, on n'est pas obligé de les aimer. C'est clair. C'est comme si tu demandais à Dimeco d'aimer le PSG, quoi, tu vois.
Il est pas loin.
Il commence.
Il a failli tomber
à Il commence. Sur le jeu en soi, on peut rien dire. Leur jeu est magnifique.
Il m'a dit le PSG, là où je le sais, c'est qu'il s'entraîne beaucoup pour les pénaltys.
Continue, Clément.
Sur le jeu, on peut rien dire en soi. Par contre, c'est les à côté. Le problème, c'est l'arrogance, les histoires à côté qui font jaser tout le monde, en fait. C'est le fond du truc qui donne aux équipes adverses cette envie de les crever, en fait. C'est ça qui fait que c'est plus.
Alors qu'à Bordeaux, les Jalibert, tout ça, sont chargés d'humilité.
Je suis plutôt d'accord avec Clément. Tu sais, ça me fait penser, en fait, le Stade Toulousain actuel, et même c'était déjà vrai à Guinoves, il me fait penser à l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas. C'est-à-dire une équipe qui domine et qui est très arrogante. En fait, moi, je comprends très bien l'idée de se nourrir de tout ça, d'une animosité qui est réelle ou supposée. Peut-être qu'il l'invente tout ça, hein, cette animosité extrême des autres. Excuse-moi, quand il dit on sait qui nous en veut, ça c'est du
pipeau. Je te fais un parallèle avec la télévision.
Laisse-moi juste finir là-dessus. Mais si tu veux, quand tu fais ça pour te motiver et que tu gagnes, bravo, t'as tout compris, t'as raison. Mais comme on dit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que si t'as besoin d'être détestable pour gagner, eh ben tu gagnes et t'es détesté. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est dans l'attitude. Ils ne peuvent pas être complètement adoubés par les adversaires parce qu'ils se rendent détestables par moment.
Pour revenir au boulard. Je te fais une similitude. La gagne t'amène le boulard. Automatiquement. Les mecs, après, ils font l'info modeste. Ils disent, ouais, il est chargé d'humilité, regarde le tennis. Ils ont tous un boulard incroyable. Marseille, à l'époque, sûrement, probablement, la gagne fait que t'as une suprématie sur les autres et que t'en joues puisque t'as un rapport de force avec les autres. Donc, dans ce rapport de force, il y a aussi un rapport psychologique. C'est le milieu qui t'amène ça. Comme la télévision la rend les gens cons, très cons. C'est la télé qui les rend. Au départ, les mecs qui font de la télé sont pas cons. Oui, mais au départ, les mecs, quand on est dans le couloir, qui te disent pas bonjour, même à RMC, t'as plein de mecs qui sont des speakerines ou des mecs qui machinent, ils te disent pas bonjour. Parce qu'ils font de la télé, ils ont l'impression que c'est la télé. Au départ, c'était des gens, je sais pas. Mais la télé, les rentrés cons.
La télé, nous, on n'a pas eu le boulard, hein.
Ouais. Je crois qu'on a plus le temps.
Mais ça n'a pas duré. Ne t'inquiète pas, ça n'a pas duré assez longtemps. Mais crois-moi, si ça avait duré 2-3 ans, Adrien, tu vois, tu aurais plus le même. Il aurait mis une perruque, de la laque, de la soif et tout.
Oh là, Adrien, la rue de la soif.
Merci à Mickaël et à Clément. Merci messieurs, vous avez été très bien tous les deux pour défendre votre club. Dans un instant, une info qui va glacer les supporters des Girondins de Bordeaux, puisque la DNCG a exclu les Girondins de toute compétition nationale. Les détails dans un instant dans le Super Moscato Show. Dans Moscato Zap.
Tu le savais pas? On en parle là
tout de suite. On en parle.
Ah ouais, putain, c'est incroyable. Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Et 16h32, le Super Moscato Show. On y revient, on mastique avec Dimeco, Denis Charvet, Adrien Aiguet, mon petit Pierrot, dans demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Alors, dans une demi-heure, on replonge dans ce France-Suède. La défense, est-ce le point faible des Bleus? Mais d'abord, on va à Bordeaux, dans le Mosca Zap.
RMC, le Mosca
Zap. C'est une info qui vient de tomber. La DNCG a pris une lourde sanction contre les Girondins de Bordeaux, exclus de toute compétition nationale. On va faire le point et surtout, on va essayer de comprendre cette info avec David Glusman de l'After, spécialiste des Girondins, alors qu'il connaît le dossier sur le bout des ongles. Salut David.
Allô.
Salut. Ouais, le bout des doigts, le bout des ongles, tout ce que vous.
Alors, on a une liaison qui n'est pas au top, j'ai l'impression. Donc.
Je ne sais pas si je voterai pour vous, monsieur Guzman.
On va. Oh, tu peux faire une forme, ça. Alors, on va essayer de ne pas interrompre David parce que j'ai l'impression qu'il y a un énorme délai. Qu'est-ce que ça signifie, cette info, pour les Girondins de Bordeaux, David?
Ah merde.
Bah déjà, en fait, il faut savoir que cette décision, elle n'est pas définitive. Ça signifie que à l'heure actuelle, la DNCG qui ne juge et qui ne joue.
Bon, alors on va recommencer.
Ça, c'est bon. C'est-à-dire à faire face à ses futures dépenses d'exploitation, n'en est pas capable. Il n'en est pas capable. Pourquoi ? Car Gérard Lopez, encore une fois, s'est défaussé. Il avait promis, notamment devant le tribunal de commerce, pour garantir l'exécution du plan de continuation, qu'il allait mettre l'argent, donc on parle de 9 millions d'euros, entre le montant du plan et le montant de l'exploitation de la saison, pour financer la prochaine saison. Il a trouvé un partenaire capital, qui est un fonds d'investissement, qui lui allait devoir justement mettre ce montant. Pourquoi Sparta Capital n'a pas mis ce montant ? Car ils ont décidé de faire du chantage à Bordeaux Métropole qui détient le stade et le haillon. On sait très bien que...
Bon, ça va pas. Je suis désolé, David, je suis obligé de t'interrompre parce que ça coupe de trop souvent. Donc, on a du mal à suivre. On va essayer de rappeler David. D'abord, on retient que la décision n'est pas définitive. Donc, je pense qu'il doit y avoir un délai pour apporter les 9 millions. Ce qui est très flippant, c'est de se dire qu'il y a encore un trou de 9 millions à combler pour les Girondins, Vincent. Et puis, le risque, là, c'est de repartir en régional. Hein.
C'est très flippant parce qu'à ce niveau-là, trouver 9 millions, déjà en première division, trouver 9 millions, je ne sais pas s'il y a 80% des clubs qui ne sont pas capables de les trouver. Parce que c'est beaucoup, beaucoup d'argent, 9 millions. Parce que là, maintenant, on est dans des prix, maintenant, avec le PSG, la Coupe d'Europe, les machins, la Coupe du Monde, on parle de millions comme s'il en pleuvait. Mais pour un club du championnat, et imagine qu'il évolue en 3e ou 4e division, trouver 9 millions. Mais c'est ils sont condamnés.
Là, si tu repars en Régional 1, Vincent, donc c'est amateur, c'est et c'est la 6e division. L'équivalent de la 6e division pour les Girondins.
C'est terrifiant. Ça veut dire que pendant toute l'année ou les deux ans, ils sont à crédit, quoi. Ça veut dire que l'économie n'existe pas. Donc c'est que du bluff, encore une fois. C'est ralent, parce que moi, les Girondins Bordeaux, ça fait partie du paysage footballistique de la France. Ça doit être un club qui doit être en première division professionnelle. Tu vois, il peut avoir un accident, ça arrive, tu descends en deuxième division, mais là ils sont descendus déjà en cinquième ou en sixième. Si ça repart en arrière, j'ai bien peur que, tu vois, on dit les grands clubs ne meurent jamais, mais au bout d'un moment, quand même, c'est compliqué.
Eric.
Bah écoute, ça fait un peu froid dans le dos parce que tu te rends compte que un club historique, légendaire comme les Girondins, quand tu tombes sur un investisseur
pas fiable.
Voilà, pas fiable, je savais pas comment je veux pas l'insulter ni le truc, mais bon, pas fiable, voilà, c'est très bien ça, Adrien. Il peut aller au bout et faire disparaître ton club, quoi. Alors moi je pense que ça va s'arranger, que ce club là peut pas disparaître, ou en tout cas qu'ils arriveront peut-être à trouver la solution. Enfin, je l'espère en tout cas pour les Girondins.
9 millions, Eric.
Oui, non, mais c'est peut-être le moment justement d'y rentrer dans ce truc là. Ou alors peut-être que il y a certains investisseurs qui attendent qu'ils soient au fond du trou pour y aller.
Ça existe, mais ça. Hein.
Oui, ça existe, bien sûr, parce que en réalité, malgré tout, comme c'est un club qui peut être
légendaire
tous les ans, si tu travailles bien, parce qu'il y a un bassin économique, il y a une histoire, voilà. Donc peut-être qu'il y a des gens qui font le pari sur le club qui descend, quoi. Mais je veux pas y croire. Donc j'espère que ça va bien se passer.
J'imagine que Eric Gérard Lopez, qui est le propriétaire toujours du club, hein, a failli racheter l'OM à l'époque. Hein.
Ouais, finalement, vous en sortez pas si
Gérard Lopez, était en concurrence avec Franck Macron pour racheter l'OM il y a 10 ans. C'est fou.
C'était même fait.
Gloria, c'est génie.
Moi, je vais te raconter le truc. Je voulais jamais raconter, mais j'ai reçu un coup de fil pour me dire que ça y est, il a acheté le club et que, et là, je déconne pas, il voulait qu'il cherchait des anciens pour travailler avec lui. C'était fait. Moi, la personne qui m'a appelé m'a dit c'est fait. C'est fait, et il faisait une tour de table pour savoir qui.
C'est pour ça que Margarita Louis-Dreyfus a eu un éclair de lucidité.
Nous, dans notre, on aime bien,
lucidité.
Mais
Non, mais bien sûr que la famille Louis-Dreyfus, à ce moment-là, aurait pu aller au plus offrant ou à celui qui arrivait en premier ou à celui qui chantait le mieux, et que le choix de prendre notre actionnaire aujourd'hui a été judicieux pour la pérennité du club, même si ça marche pas très bien.
On en reste là et probablement qu'on en saura plus demain, et donc on vous donnera plus d'infos dans le Super Moscato Show. Mais vous écoutez également Rotten sans flamme pour en savoir plus sur les Girondins. On revient à la Coupe du Monde avec cette victoire difficile du Brésil face au Japon. Un Neymar qui n'est pas entré en jeu, il n'a pas joué une seule minute alors que son équipe avait besoin de marquer. Carlo Ancelotti a fait deux changements offensifs, un à la mi-temps, Paqueta blessé remplacé par Hendrick, puis Martinelli à la place de Cunha à la 66e. Il n'a utilisé que quatre remplacements, il lui en restait donc un. Pourquoi pas une seule minute pour Neymar?
Avec Neymar, nous avions discuté. Si nous n'avions pas égalisé autour de la 60e minute, je comptais le faire entrer. Nous pensions aussi à la prolongation pour l'utiliser parce qu'il était prêt et en bonne condition. Finalement, comme nous avons marqué, Neymar n'est pas entré, mais tout était clair avec lui.
Alors, ils ont égalisé à la 56e et marqué le but de la victoire dans les arrêts de jeu. Avec un des entrants offensifs quand même. Donc je suis pas sûr que Carlo Ancelotti.
Mais si, il a fait le pari de le faire jouer toute la prolongation et d'être déterminant.
Ça veut dire qu'il a pas plus de 30 minutes dans les jambes. C'est-à-dire que Carlo pensait qu'il allait exploser s'il rentrait avant.
Là, on va être exposé à ce problème-là pendant tous les matchs d'élimination directe, parce que en réalité, Neymar, on va le voir sur le terrain 20 minutes, soit il gagne 2-0, ou soit il faut remonter, comme l'a dit Ancelotti, sur la fin, un résultat. Mais là, sur le match hier soir et sur peut-être les prochains matchs du Brésil, quand ça va être qu'il peut y avoir une prolongation, ben il l'utilisera pas. Ça veut dire que en réalité,
il a
plus d'un quart d'heure dans les jambes, il a un quart d'heure dans les jambes, sûrement. Et encore, il est même pas sûr, du coup.
Oui, mais je pense qu'il y a une gestion aussi de Neymar. Donc, même s'il ne l'a pas fait rentrer là, moi, je ne suis pas inquiet, il peut devenir titulaire plus tard. Denis,
Il
n'y a pas de gestion de mec, c'est quand tu es à deux doigts de perdre, quand même.
C'est pour ça que
parce que le match après, il n'y en a plus.
Exactement. S'il pensait que Neymar pouvait faire basculer le rencontre, il aurait joué hier, je pense.
Exactement. Mais c'est pour ça qu'à un partout, s'il est.
Il ne repose pas.
S'il a une mi-temps ou s'il n'a pas de soucis, s'il est capable de. Tu peux faire un match de Coupe du Monde sans pouvoir faire 90 minutes. Sauf que si dans un match comme hier soir, à un partout, tu ne prends pas le risque de le faire rentrer parce que tu te dis, je vais aller aux prolongations, c'est là peut-être. Ouais. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à jouer un match de haut niveau. Voilà. Et Denis, comment tu peux dire qu'il
peut redevenir titulaire? Il a 20 minutes.
Dans un match où il n'y avait rien à jouer.
Je n'ai pas la même lecture que toi.
Le score était fait.
J'ai pas la même lecture que toi.
Ah ben, alors explique-moi la pertinence de pas le faire jouer hier soir quand tu dois gagner le match. Explique-moi.
Non, mais la lecture, c'est que Ancelotti, il a été pris par le contexte du match, tout simplement, et qui s'est dit, je le fais jouer les 20 minutes de la prolongation pour qu'il fasse la différence. Moi, je la vois bien, ça n'a pas grand chose.
Pourquoi il le fait pas? Alors, explique-moi.
Parce qu'il le préserve pour la prolongation et pour les tirs au but.
Ah, d'accord. Et bien, quoi, puisque le fait minutes avant la fin du match.
Et voilà, comme ça, il va pas en prolongation, comme ça.
Ce qui est terrible, c'est qu'il doit se dire 20 plus 30.
Oui, voilà. C'est pas possible.
Donc, c'est pas possible.
Non. Et puis, il dit, s'il y a les tirs au but, il faut qu'il fasse 20 plus les tirs au but. Regardez, ça
lui fait. Allez, on en reste là. Il s'est entraîné au tir au but. On retourne à Wimbledon.
Il le faisait rater pour les tirs.
Alors, Wimbledon, où Novak Djokovic a allumé une polémique sur le circuit et l'organisation des matchs de tennis hier. Eric Salio, tu vas tout nous raconter. Après sa qualif pour le deuxième tour, il a fait une longue tirade très critique, notamment sur les Masters 1000. De quoi s'agit-il exactement, Eric?
Oui, le Serbe est convaincu que les Masters 1000, qui maintenant se déroulent sur 12 jours, hein, vous le savez, c'est une fausse bonne idée. Ça prive notamment les joueurs de périodes de décompression, de récupération, et c'est pas un hasard non plus s'il y a autant de blessés.
Moi, j'ai toujours été contre ce format. Ajouter 4 jours de compétition, ça génère bien plus de valeur pour les organisateurs que pour les joueurs.
Novak Djokovic aime aussi à s'appuyer sur une étude qui affirme que la moyenne d'âge des fans est de 61 ans, donc il veut chercher une clientèle beaucoup plus jeune.
À mon avis, il faut changer le format du circuit, faire en sorte que les matchs des tournois soient plus courts, plus dynamiques, proposer quelque chose de plus intéressant et de plus court, parce que c'est vraiment trop long. Les tournois du Grand Chelem, c'est différent, les matchs au meilleur des 5-7, ça me va. Je pense qu'au moins sur le circuit, on peut faire des essais, il le faut.
Ouais, on voit qu'il a une âme de syndicaliste. Maintenant, on sait que le contrat avec les Masters 1000, ils ont été signés sur
30 ans.
Oh là là.
Ça va être dur de faire brûler les choses.
Non, mais par contre, c'est vrai que ces tournois sur 12 jours, ce ne sont pas des grands tournois comme Wimbledon et Roland Garros. C'est vrai que c'est trop long. C'est la vérité. Hein.
Il a raison. Hein.
Est-ce qu'il faut réformer le tennis, Vincent?
Bah, je ne suis pas assez spécialiste, mais il me semble que des tournois pour des masters qui durent 12 jours, c'est beaucoup trop. Comme toi, je pense qu'il faut à un moment donné que ce soit plus court, ce soit sur 4, 5 jours, 6 jours maximum. Et puis il faut préserver les mecs, parce que de plus en plus, ils ont des tournois, et puis tu vois de plus en plus d'Arthur Fils et tout ça qui se pète. Très jeune, des douleurs au dos. C'est des douleurs au dos, en général, c'est des maladies de vieux. Là, les mecs, ils ont 21 ans, ils ont tous des douleurs au dos. Il y a une autre nana qui avait une douleur au dos aussi. Enfin bon, ce qui veut dire qu'ils sont surmenés. Donc je crois que pour la qualité, il faut que les mecs soient en forme et puis ça saoule quoi, de rester 12 jours sur un tournoi un aspro
ça. Non, mais surtout qu'en fait ça étire pour pas grand chose parce que tu n'as pas plus de bons moments, c'est ça qui est nul. C'est que les bons moments ça démarre en gros sur les quarts de finale, demi-finale, les trois derniers jours de tournoi. Donc quand tu démarres le lundi, t'as 4 jours à attendre. Ouais. Quand tu démarres le jeudi mecs, précédent, c'est une semaine.
On est dans un monde où tu regardes une série, quoi. Les mecs quand ils doivent faire un film d'une heure et demie, ils en font 8 épisodes de 50 minutes. C'est comme ça, toi. Voilà. Là, des trucs qui te font jouer la Coupe du Monde 48, ça va passer à 64 au football. Bah, écoute-moi, là, c'est tout paravolo, quoi.
Heureusement qu'on va disparaître.
Heureusement que le journal.
Non, mais je te le dis.
Le journal moyen, il y en a un sur deux qui est bon, quand même.
Ouais. Un sur trois. Journal moyen, deuxième édition, avec un très joli service après-vente du Kikadi, du Moscato Show d'hier, avec un Denis en pleine forme. Et puis, un petit sondage sur la cote de popularité de Kylian Mbappé. Ça repart à la hausse, Vincent. Ce monde est mouvant. Ce monde est très mouvant.
Ouais, c'est terrible, quoi. Il est 16h45, le Super Moscato Show. On revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h47, on est dans le Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aiguet. Deuxième édition,
service après-vente du Moscato Show d'hier, grâce à Denis Charvet. Sondage sur la cote de popularité de Kylian Mbappé. Puis 16h55, première question du Kikadi. Vous écoutez RMC, c'est le 2723e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen. Deuxième édition.
Alors, retour sur le passage antenne d'hier, puisque Pierrot, tu m'as signalé quelque chose. 14h55, tu m'as dit potentiel petite mâchoire paralysée pour Estelle Denis sur le mot Wimbledon. Mmh. On vérifie et on tranche, soyez bien attentifs.
Puis on a une belle question sur Djoko.
Allez-y.
Est-ce que cette fois c'est la dernière chance? Wimbledon, ça démarre aujourd'hui, il sera sur les courts tout à l'heure.
Ah, bah écoutez, nous disons, ah oui, Wimbledon, ça démarre aujourd'hui.
Djoko joue, hein. Merci.
Il était dévoré. Bien joué, Estelle. Service après-vente du Moscato Show d'hier. Bonjour. Alors, le Moscato Show, bientôt la 20e saison, et ça s'entend, tout est rodé, tout est réglé comme du papier à musique, ça s'est encore entendu hier. Il était 15h47. On est censé attaquer le journal moyen, comme d'habitude. Mais il y a du direct. Il y a Sinner en difficulté au tennis à Wimbledon. Du coup, pendant la pub, communication entre Frédéric Pouillet et Pierre Dorian, régie en studio. Il se cale sur la procédure à employer à la reprise d'antenne quand Vincent reprend l'antenne. Et quand on reprend, c'est là qu'on voit qu'on travaille tous ensemble depuis 20 ans. Tout est calé, tout est nickel.
15h49, Piro, il y a une directe là, je crois.
Non, il y a du Wimbledon, tranquillement. Wimbledon, on va s'y intéresser de très près parce que Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, a perdu le premier set contre Kekmanovic et sert pour égaliser à 1 partout. Donc on va quand même vérifier que tout
un
va bien.
1 set partout.
Ça y est, c'est fait.
Ah, c'est fait.
Je te demande.
Non, mais t'as dit pas un partout. Je dis un set.
Eric, salut,
c'est
avec nous.
À peu près. Quand même. Eric, allez, c'est le journal moyen d'Adrien Aiguin.
Ah, donc là, la fin de la séquence, dont là, on est en train de ramer. Vincent annonce le journal moyen d'Adrien Aiguin. La suite, s'il vous plaît.
Et c'est le journal moyen d'Adrien Aiguin. Allez.
Yannick Sinner a 2 balles pour revenir à 1 set partout, mais c'est vrai qu'il a commis.
Voilà, Eric Sagnol est là, il parle, voilà, c'est comme ça. C'était pas calé,
La bouillie.
C'est le fameux film
contre tout ça généré par Fred, bien entendu.
On va pas l'accabler.
Petite incompréhension. La suite du service après-vente grâce à Denis.
Je sais pas s'il a progressé, Fred, en même temps.
Il ne veut pas progresser. Quand la base de l'apprentissage, déjà, c'est de le vouloir.
Le service après-vente de Denis Charvet maintenant. Bonjour, Denis.
Mais si, c'est lui.
Avec Denis qui nous a sorti une nouveauté hier. Un inédit, franchement, merci. Inattendu. Sur les habitants de Montpellier. Ça, je ne m'y attendais pas. Les habitants de Montpellier. Montpellier, comment les appelle-t-on?
Non, mais ils sont quand même
c'est fou.
Touchés fort quand même.
Denis.
Tu prends le porteur du ballon, le mec qui joue en fait de passe. Non, mais t'as vu ça où?
Non, mais je pense que les Montpellier-Lyriens, non, comme j'arrive à dire.
Non,
jamais, jamais.
Non, je le ramasse.
Les joueurs de Montpellier.
Ouais, les joueurs de Montpellier, c'est moi, vas-y.
Non, là, j'y arrive pas.
Non, je n'y arrive pas. Là, il y a refus d'obstacle pour Denis Charvet. Non, mais
juste, j'avais du mal pendant le match.
Mais oui, mais attends, il y a une deuxième tentative direct hier dans la foulée.
Non, là, j'y arrive pas.
Non, mais c'est facile, ça.
Non,
Montpellier-Rien. Non, j'arrive même pas à le dire.
Non, mais là, c'est pas possible. Ah,
non, arrête, tu m'emmerdes.
Il venait de le dire, Adrien. Oui, mais c'est répété.
Il a dit, mais
je suis Montpellier-Rien.
Montpellier-Rien.
C'est ouf.
C'est ouf, comme tu veux essayer. Je suis Montpellier-Rien.
Non, mais je suis Montpellier-Rien.
Non, mais
là, il y a un problème. Il y a un problème neuronal. Il y a un truc qui est mal connecté dans le cerveau. C'est pas possible.
Montpellier-Rien.
Ah, voilà.
Et oui, tu mets le. Tu termines par rien, en fait. Non, c'est comme ça. Et puis, dans le débat rugby, sur la finale du top 14, hier, Vincent a rendu hommage au meilleur joueur de la finale. C'est une machine de guerre. Il est anglais.
À ce jeu-là, c'est pour ça que je te dis bravo le Stade Toulousain et Bruce Willis. Merci à Bruce Willis.
Merci Bruce Willis. On est parfois une mission de neuneu quand même.
Hein. On l'a même pas relevé, t'as vu?
Si, on l'avait relevé.
Si on peut quand même.
Voilà, Bruce Willis qui est sorti deux fois comme ça.
Bruce Willis.
Willis, le troisième ligne admirable, bien sûr.
Bruce Willis.
Ça va être incroyable.
Le pauvre, oui.
Bon, Bruce Willis,
il est plus en forme.
Bruce Willis est en petite forme.
Il y a un gros problème de santé.
Sans transition, c'est la Coupe du Monde. Jingle, c'est la fête.
Attention, il y a la Olé qui arrive, il y a la Ola qui arrive. Olé, c'est la fête.
Ouais, c'est la fête, super. Merci beaucoup.
C'est la Olé ou la Ola?
Edgar Grollo. Séquence terrible au Paraguay. Je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, ça tourne pas mal. Hier soir, dans un bar au Paraguay, le 16e de finale est diffusé. Allemagne-Paraguay, l'exploit d'une nation diffusé sur un rétroprojecteur. Voilà, tout le monde est content, c'est le stress. C'est le moment du dernier tir au but décisif de José Canale. Et au moment de sa prise d'élan, message sur la télé de mise en veille et suspension de la connexion. Et juste au moment du tir au but, écran noir. Donc les supporters ne savent pas, il y a des cris d'effroi si le Paraguay est qualifié. Et quelques secondes après, l'écran se rallume. Le serveur du bar qui appuie sur la télécommande. Et les supporters découvrent la qualification. Ils découvrent les joueurs du Paraguay en train de pleurer de joie. Mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu.
Il y a beaucoup de télé qui s'éteignent automatiquement quand il n'y a aucune action.
Et oui.
Et comme les bars, ils laissent ça allumer toute la journée. Ça peut arriver.
C'est comme quand.
Mais ça fait double émotion. Ça fait l'émotion de ne pas le voir et l'émotion de.
Comme nous, Eric, autrefois, on entendait le premier but et ça revenait vers nous.
Exact. Ah ouais, exactement.
Dans ce match, il y a eu plein de choses autour de ce match. T'imagines, Vincent, la joie au Paraguay. Santiago Peña, le président du Paraguay, a tweeté juste après. On pensait que c'était une blague. Le Paraguay n'abandonne jamais. Jour férié.
Ah ouais.
Et quelques heures après, parce que les gens se sont dit non, mais il a craqué. Et voilà.
Ouais, mais là.
Quelques jours après, décret officiel, communiqué officiel de l'État du Paraguay qui dit voilà, jour férié, aujourd'hui c'est férié au Paraguay. Ils ont fait la fête.
Ouais, ça doit pas faire bouger beaucoup le PIB, crois-moi, entre quand ils bossent ou quand ils bossent pas.
Non, mais carrément, tu peux mettre fête nationale, du coup, tous les ans, ce jour-là.
La capitale du Paraguay, c'est
Asunción.
Asunción.
Un point. Asunción.
Transition. C'est la Coupe du Monde. Oui, toujours la Coupe du Monde. C'est le point Kiki.
Et l'intervention de Kylian de Mandanda. Ça y est, Mbappé qui va frapper. Heureusement, il y a Kylian Mbappé.
Alors, Mbappé est arrivé. Mbappé est arrivé aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Il est arrivé. Il est très très fort. On va pas dire qu'il est en mission parce qu'on a plus le droit de le dire, mais il est très fort. Et c'est curieux. Vraiment curieux. Sa cote de popularité remonte en France. Sondage Odoxa pour Le Parisien aujourd'hui en France. L'image du capitaine Mbappé est en montée, Vincent. Chez les amateurs de foot, 75% ont une bonne opinion de lui. 62% pour l'ensemble de la population. Le dernier sondage, c'était en septembre 2024. C'était au moment de son départ au Real. Il était en plein embrouille avec le PSG. Donc, sur l'ensemble des Français qui aiment le foot, c'était 65%. Donc, 75 contre 65. Hein. Et auprès de la population française dans son ensemble, c'était seulement 54% de gens qui avaient une bonne opinion d'Mbappé. Vous vous rendez compte que c'était une personne sur deux, c'était très faible pour un joueur de foot.
Pourquoi les gens, c'est pourquoi les gens ont une mauvaise opinion de lui?
Mais parce que, c'est curieux. Ces études d'opinion, non, c'est très fragile.
C'est très fragile.
Quand tu t'intéresses pas de près à un sujet, tu entends la petite musique. Si la petite musique est favorable,
tu as plutôt tendance
à dire que tu l'aimes. Si la petite musique est défavorable, tu as plutôt tendance à dire qu'il l'aime pas. C'est nul.
Et qui c'est qui fait la petite musique?
C'est le média.
Qui c'est qui fait la petite musique?
Le média.
C'est Pierrot qui arrête pas de taper dessus, et donc du coup, l'auditeur l'auditeur, il tombe dans le trou.
J'en ai une dernière pour Denis, c'était pendant la finale du rugby, j'ai pas eu le temps de vous la passer, c'était à Toulouse MHR, samedi sur RMC, les arbitres, Denis Charvet était présent en tribune avec Christophe Cessieux, avec toute l'équipe, Wilfried Templier.
Non, Christophe était en studio.
Petit écart au score qui se creuse en première période, Denis, tu es sur un fil.
Les conséquents, et puis là, quand tu as un tel écart derrière, moralement, écoute, ça te foule du gaz quand tu mènes comme ça.
Ça te foule du gaz, bien sûr, Denis.
Denis Charvet. J'avais fait 7 heures d'antenne,
on va aller à Wimbledon, mais d'abord, première question du Kikadi.
Ouais, la première question du Kikadi, c'est tout de suite. Kikadi, vous avez chacun pour soi, pour la première question. Cette année, sur le Tour de France, quel Français sera équipier de Jonas Vingegaard?
Armirail,
Bruno Armirail, Visma, Lisebike. Accompagnera Jonas Vingegaard vers un Tour de France.
Wimbledon, Loïs Boisson face à Elena Rybakina. Eric Salio.
Oui, sur le court numéro 1 et 1-7-0 pour la Kazakhstanaise à l'instant, 6 jeux à 4, donc Rybakina qui a gagné le tournoi il y a 4 ans. Hugo Humbert n'est plus mené que 2 manches à 1 par Zizou Berthe, et puis on note la qualification de Quentin Alice, alors que Benjamin Bonzi à l'instant vient d'abandonner au milieu du 5e set face au Canadien Diallo.
On revient très vite, Eric, et après les infos de 17h, la défense est-ce le point faible des Bleus qui vont affronter des attaquants de valeur ce soir face à la Suède? À tout de suite.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.